Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, adeptes de l'intelligence artisanale et du cousu humain. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce lundi 12 janvier. Aujourd'hui, on reçoit l'antithèse d'Amazon, soit un développeur informatique qui a créé dans le respect des autres et du fait main, et avec une approche éthique, une plateforme de vente sur Internet qui met en relation les artisans, les artisanes, les créatrices et artistes avec les clients. Son nom, qui bat tous les scores au Scrabble, Quasart, développé donc par l'agence Zefix, mot compte triple, une agence albanacienne, mais tu vas nous en dire plus, qui croit encore que l'humain peut exister dans l'économie du numérique. On en parle dans un instant avec son fondateur, donc Sébastien Cogé, et aussi deux artisans et artisanes qui ont rejoint le projet et vendent leur création sur la plateforme. Zoé Delille, qui est bijoutière, céramiste, sculptrice, illustratrice de l'atelier des Poissons Rouges, et Joseph Vallon, qui est ébéniste de l'atelier Vallon. On en parle juste après. La bise à Sylvain, artisanale.
Bonjour.
Rouler sous les aisselles. Non, pas rouler sous les aisselles. Et après l'agenda. Aujourd'hui dans l'agenda, une autre initiative qui rend les émotions visibles dans le monde numérique, c'est celle initiée par les archives départementales de l'Ardèche depuis l'année dernière, avec les communautés de communes du Pays des Vences en Cévennes, des Gorges de l'Ardèche et de Rhône-Crussol, et puis aussi en partenariat avec le PNR des Monts d'Ardèche et Ardèche Images. Cette initiative, c'est celle de numériser les films sur bobines ou cassettes prises des années 1920 aux années 90, des films amateurs, des films de famille, des films d'une asso locale, de la paroisse, de l'entreprise, enfin bref, tout ça pour documenter la mémoire filmique de notre Ardèche, enfin de l'Ardèche. Il y a une asso qui est spécialisée dans cet exercice, qui s'appelle Ofnibus et qui organise plusieurs collectes de cassettes et de bobines dans le coin. La prochaine, c'est mercredi, de 14h à 17h, à la médiathèque de Vallon-Pont-d'Arc. Vous pouvez commencer dès maintenant à fouiller dans vos caves, vos greniers, à la recherche donc de ces précieuses pellicules pour mercredi, pour venir donc à la médiathèque de Vallon mercredi après-midi, pour les numériser. Alors vous pouvez même venir un tout petit peu avant, à 11h il y a une découverte de la démarche, vous pouvez rencontrer l'équipe et puis découvrir aussi en avant-première les premiers exemples de films récoltés sur la communauté de communes de Vallon-Pont-d'Arc. Et puis de 14h à 17h il y a la collecte proprement dite et il y a également des outils de visionnage qui sont mis à disposition pour visionner les cassettes et les bobines sur place parce que quelquefois on n'a plus tout ça. Où est le magnétoscope ? Courant avril, vous serez invité à participer à des ateliers de mise en son des meilleures images collectées avec des enregistrements de témoignages, de chants et des bruitages. C'est une démarche artistique avec le réalisateur-monteur Adonis Bondec. Et puis il y aura une projection de ce film qui sera proposé le mercredi 29 avril au Ciné 7 d'Orions. Mais ça, bien sûr, on aura le temps d'en reparler. Donc prenez date pour celles et ceux qui sont du côté de Vallon. C'est le 14 janvier, mercredi, de 14h à 17h, à la médiathèque de Vallon-Pont-d'Arc. Et c'est gratuit. Notez également, on en reparlera, qu'il y aura une prochaine résidence de collecte avec l'association Ofnibus du 4 au 6 février. Ça, ce sera du côté des Vences. Vous serez accueillis là-bas donc au centre d'accueil à la salle communale des Vences. Et ce sera l'occasion donc de redécouvrir toutes ces bobines et cassettes. Et puis il y aura une projection libre et gratuite à partir de ces films numérisés. Ce sera le vendredi 6 février au cinéma d'Evance, au cinéma Vivance. On en reparle. En tout cas pour l'instant, mercredi de 14h à 17h à la médiathèque de Vallon-Pont-d'Arc et plus d'infos sur ofnibus.fr. Dans l'agenda de ce lundi, un autre événement un peu hors format, même s'il est proposé par l'association du même nom, Format. C'est toujours mercredi, cette fois c'est à 10h à Aubenas, à la salle Le Bourneau. C'est Body Bagarre, le jeu de la compagnie R.O. Alors je ne sais pas très bien comment on prononce. Il s'agit d'un spectacle participatif qui mêle l'impro, un peu d'humour et l'histoire de la danse. C'est ça qui est intéressant. Le dispositif, ce sont deux équipes qui explorent 350 ans de chorégraphie du ballet au crump Alors, parmi A, je vois des grands yeux. Savez-vous ce qu'est le crump ?
Non, absolument pas.
Pas du tout.
Pas du tout. Bon, bah, alors il faut aller, il faut aller voir mercredi à la salle Le Bourneau. Mais le crump, quand même, deux mots, c'est une danse urbaine entre hip-hop et capoeira, qui est née dans les années 90 dans les zones urbaines des États-Unis. Voilà, l'idée donc de ce spectacle, c'est de mêler la pratique, puisqu'on a parlé de spectacle participatif, la compréhension des liens entre les styles et les époques, tout en s'appropriant la culture chorégraphique de manière joyeuse, libre et collective. C'est à partir de 8 ans, ça dure 1h45, c'est donc à 10h mercredi, c'est 6 euros, et puis aussi une petite incise, il y a l'adaptation de ce spectacle pour les scolaires. On en parle rarement puisque c'est pas grand public et qu'on s'appelle pas Info RC, radio dans le milieu scolaire, mais fréquence 7. Mais c'est quand même bon à savoir, c'est programmé demain à 10h et 14h30. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un travail qui est fait justement à destination des scolaires. Voilà, le spectacle, c'est Body Bagarre, le jeu, c'est à la salle Le Bourneau, mercredi à 10h, et vous trouverez toutes les infos sur le site Format Danse. Voilà, c'est la fin de cet agenda, mais on continue avec d'autres artistes.
Je cherchais les notes, je tirais sur mes cordes, je bousculais les accords, j'ai joué avec les croches. Je tentais de trouver la clé de mon morceau pour envoler l'air de ma compo. Je courais sur les gardes et trouver une trame. Je suivais en cachette les blanches et les noires, décidé à aller gros, cette balade en fête, puis reprendre adagio leur chemin du soir. Comment t'as fait, toi chanteur, pour trouver les bons airs?
Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonne couleur?
Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour peindre ces tableaux?
Comme une vague qui t'emmène, tu ne sais pas où tu vas.
C'est les mots qui te viennent,
qui tracent de leurs doigts
le chemin inconnu des pensées incongrues, en volant les débuts tes idées préconçues. Et dans ce nouveau monde, progressivement s'esquisse la folie romanesque de paroles vagabondes. La magie de ses fraises, presque comme une éclipse, en moins d'une seconde s'en va et puis revient. Comment t'as fait, toi chanteur, pour trouver les bons airs?
Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonnes couleurs?
Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour peindre ces tableaux? Comment t'as fait, toi Wagner, comment t'as fait, toi Turner, pour trouver les bonnes couleurs? Et toi Hugo, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi Jericho, comment tu fais pour peindre tes tableaux?
L'encre de mes écrits, tu es l'air de mes mélodies,
le pigment de mes peintures, la terre de mes sculptures. Tu es l'encre de mes écrits,
tu es l'encre de mes écrits,
tu es l'air de mes mélodies,
l'air de mes mélodies,
le pigment de mes peintures, la terre de mes sculptures. Comment t'as fait, toi chanteur, pour trouver les bons airs?
Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonnes couleurs?
Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour peindre ces tableaux? Comment t'as fait, toi Wagner, pour trouver les bons airs? Comment t'as fait, toi Turner, pour trouver les bonnes couleurs?
Les artistes des Frangines, c'est extrait de l'album Vagabonde, c'était en 2017. Et c'est le choix de notre invité, enfin de l'un de nos invités, Sébastien Coget, fondateur de l'agence Zéfix, fondateur de l'agence Zéfix qui vient nous présenter aujourd'hui un nouveau projet qui s'appelle Quasar. C'est une plateforme en ligne, alors une plateforme de vente en ligne qu'il dit marketplace. Mais pourquoi dire marketplace alors qu'il y a plateforme de vente en ligne ?
Oui. Bonjour Sophie, bonjour Sylvain, bonjour à toute l'équipe de Fréquence 7. Donc effectivement, Quasart, donc la plateforme marketplace, c'est un terme qui, en tout cas pour moi aujourd'hui, paraît galvaudé parce qu'on imagine ces énormes plateformes type Amazon ou d'autres, pour ne pas les citer, avec tous les travers qui peuvent être inhérents à ces plateformes. En fait, il faut savoir qu'une marketplace, à l'origine, c'est un endroit sur lequel les vendeurs sont autonomes pour venir charger leurs produits, leurs créations et les commercialiser en direct. Là où un site e-commerce classique est géré, le vendeur, c'est la personne qui gère la boutique, c'est un écosystème fermé. Une marketplace, elle, c'est un écosystème ouvert. Les gens peuvent venir s'inscrire, communiquer, partager, commercialiser en direct leur création. Donc Quasart est une marketplace au sens strict, à ceci près qu'on essaie d'avoir et de partager les valeurs qui font souvent défaut à ces plateformes qui deviennent anonymes et neutres et qui commercialisent la même chose que les autres. Nous, on a pris le contre-pied de ça et en voulant proposer des produits qui soient uniques, 100% français, par des professionnels de qualité. Et donc le projet Quasart s'articule autour de ces valeurs-là.
On en reparle parce que c'est vraiment le cœur du projet, mais on va en parler également avec deux artisanes et artisans qui sont venus aussi ici, qui participent à l'aventure là depuis le début, puisque ça a été lancé début décembre. Joseph Vallon, bonjour.
Bonjour.
Tu es ébéniste ?
Je suis ébéniste, oui, à Saint-Étienne-de-Fontbellon, donc artisan ébéniste, on fabrique des meubles sur mesure.
Merci. Et avec nous aussi Zoé Delisle. Bonjour Zoé.
Oui, bonjour.
Toi, tu es créatrice bijoux, mais pas que, céramiste aussi ?
Oui, je fais des céramiques, des bijoux en porcelaine et je suis à Saint-Pierre-de-Colombiers.
Ok, bah, merci d'être là justement pour avoir votre retour aussi, vous, en tant que créatrice, artisan, artisane, de ce que vous attendez d'une plateforme comme celle-là et puis de quel est le parcours, en fait, est-ce que c'est simple ou pas aussi d'arriver à vendre sur Internet. Sébastien, d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler, j'ai présenté l'agence Zéfix, mais je pense que Quasart, ce n'est pas que Zéfix. Alors, Zéfix, ton agence, juste un petit mot.
Voilà, du point de vue de Zéfix, effectivement, c'est l'entreprise qui, moi, aujourd'hui, me permet de gagner ma vie et de payer mes factures. C'est un projet passion puisque je l'ai créé il y a plus de 18 ans et j'ai la chance d'être entouré d'une équipe au top. Zéfix permet de développer, informatiquement parlant, la plateforme Quasart, mais c'est deux entités qui sont complètement différentes puisque le projet Quasart est né d'autres besoins, d'autres échanges et entouré d'autres personnes qui prennent part à cette aventure.
Et alors, comment ? Pourquoi se lancer dans une aventure comme celle-là, c'est-à-dire proposer aux artisans, aux créateurs, etc., un nouvel outil pour vendre leurs créations en ligne ?
Alors le projet est né d'une rencontre en 2017 avec une dame, Vinciane, qui est à Villeneuve-de-Berre, on reste en Ardèche, hein, Cocorico. C'est une dame donc, qui a une formation d'artiste, qui a fait l'école Boulle à Paris, donc une école très réputée dans ce milieu, qui travaillait dans une agence jusqu'à la naissance de son premier garçon, où elle s'est amusée, parce que pour elle c'était un jeu, à créer des petits personnages en pâte à modeler, mais c'était vraiment avec un savoir-faire, quand j'ai vu ses créations, pour moi c'était du Wallace et Gromit, hein, vraiment on avait un niveau de dextérité qui était magistral, et puis ces visuels-là, elle les a pris en photo, elle les a retravaillés, elle en a fait des faire-part de naissance, qu'elle a envoyé ensuite à toute sa famille, ses amis, et les retours ont été unanimes. On lui a dit, mais écoute, ce que tu fais c'est génial, c'est original, tu devrais en faire ton métier, tu devrais en vivre. Elle a hésité un petit moment, puis elle s'est dit effectivement, pourquoi ne pas tenter l'aventure. Donc en 2015, quand elle a créé son entreprise, elle a réussi à développer son activité, à exister, jusqu'au point où elle a pu quitter son travail et être autonome de ses projets. Et puis sont arrivées les grandes années de l'Internet, où tout s'est accéléré, des grosses plateformes ont vu le jour, se sont développées et où ça commençait à devenir compliqué d'exister, de coexister en tant qu'artiste seul dans son coin face à ces plateformes-là et puis les frais inhérents également, puisque ben, développer un site e-commerce, ça a un coût qui n'est pas neutre. Réussir à se référencer sur Google existait également. Et donc, on s'est rencontrés la première fois dans ce contexte-là où pour elle, c'était difficile d'exister et de continuer à vivre malgré tout son savoir-faire de son activité. C'est resté dans un coin de ma tête pendant un bon moment où je me disais, mais il existe des choses, il y a des plateformes américaines, il y a des choses qui font tout ça. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de moi, restons comme ça. Et puis, sont arrivées les années Covid. Et on a franchi encore un stade puisque des très grosses plateformes ont commencé à être très directifs dans la façon de communiquer en France sur leurs approches et leur commercialisation. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic, je me dis bon sang, mais il doit bien avoir moyen de faire quelque chose à notre échelle, made in Ardèche, qui prenne un petit peu le contre-pied de ça sans aucune prétention. Sans se dire bon, on va être meilleur que les autres et on va écraser tout le monde, c'est réussir à exister avec un système qui prend un peu le contre-pied de ces plateformes géantes américaines et qui remet l'humain au cœur de la plateforme. Et c'était vraiment ça notre réflexion, de dire on a un patrimoine en Ardèche et en France qui est incroyable. On a des gens qui ont des savoir-faire extraordinaires, on a des savoir-faire qui disparaissent tous les ans malheureusement parce que ça devient difficile pour un artisan de réussir à vivre de son activité et il faut réussir à faire quelque chose. Et donc, allons-y, c'est parti, on fonce, on crée quelque chose. Comment, on ne savait pas du tout, quelle tournure ça allait prendre, on ne savait pas. Mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire, donc il faut le tenter. Et comme dit Bruel, il vaut mieux vivre avec des remords plutôt qu'avec des regrets. C'est ce qu'on s'est dit, il faut le tenter, on verra ce que ça donne.
Et donc ça, il y a combien de temps là que vous avez commencé vraiment à travailler dessus ?
En 2021, naissaient les premières idées de se dire il y a peut-être quelque chose à faire, etc. Ça s'est accéléré en 2023 parce que j'ai eu la chance de discuter avec Rémi Christen du magazine Ma Bastide, qui lui aussi est un magazine ancré dans le tissu économique local albenacien, issu d'Ardéchois, et je sais qu'il défend dans ses pages régulièrement les artistes, les savoir-faire, les artisans. Et je lui ai parlé du projet, je lui ai dit « mais est-ce que tu crois pas qu'il y a quelque chose à faire pour défendre les artistes et communiquer autrement ?» Et il m'a dit « si, on y va, c'est parti ». Et comme dans tout projet, ben, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il fallait pouvoir faire des crédits, lever des sommes d'argent, mettre des billes à titre personnel, etc. Et Rémi s'est prêté au jeu et m'a accompagné dans cette aventure et nous a aidé en finançant une partie du projet. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'être à l'antenne de Fréquence 7 et de pouvoir partager cette belle expérience.
Alors tu veux nous en parler, mais tu disais donc qu'il y avait certaines plateformes qui existaient, des mastodontes. La réalité, par exemple, Zoé, donc toi tu es une artiste, est-ce que tu existes déjà justement sur Internet et quel choix en fait s'offre à toi si tu veux vendre s'il n'y avait pas encore Quasart, c'est quoi tes possibilités en fait pour vendre sur Internet ?
Bah alors des possibilités, il y en a plein, c'est sûr, mais moi j'ai déjà essayé des grosses plateformes qui ont déjà été citées par Sébastien, mais c'est vrai qu'on est tout de suite...
Tu peux les reciter parce que je pense qu'ils les
citaient en micro. En fait j'avais essayé Little Market qui n'existe plus, maintenant c'est Etsy, donc au début, moi ça fait une dizaine d'années que je fais ça, donc au début j'avais un peu des petites ventes et tout ça, ça décollait doucement, mais tout de suite quand ça a été repris par Etsy, mon impression c'est qu'il fallait payer des pubs pour exister. Il fallait vraiment être très visible. On est complètement sous la masse de toutes les propositions et vraiment des plus gros créateurs, quoi. Et après, j'ai essayé moi-même de faire des sites avec des plateformes comme Wix ou des choses gratuites parce que, encore une fois, c'est vrai que j'ai pas forcément l'argent pour payer des sites beaucoup mieux faits. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, après, j'existe sur les réseaux sociaux propres réseaux sociaux, mais c'est vraiment très peu de visibilité, c'est uniquement ma clientèle c'est très compliqué pour moi, en plus c'est pas vraiment mon média l'informatique, donc c'est vrai que Quasart, quand j'ai rencontré Sébastien, il m'a plutôt parlé d'une dimension humaine, de quelque chose qui était son propre bébé, enfin moi c'est un peu ça qui m'a séduite, et pour ça que j'ai eu envie de participer à l'aventure.
Et toi toi, Joseph, qui est dans une configuration un petit peu différente de celle de Zoé. Tu es plus présent. Tu as un site, un beau site internet. Qu'est-ce qui t'a mené justement jusqu'à Quasart?
C'est vrai que nous, l'activité principale, c'est de fabriquer des meubles. Les gens viennent vers nous par rapport à un projet et on dessine un meuble par rapport à leurs besoins. Donc, ce sont des gros volumes. Mais parallèlement à ça, moi, j'ai toujours eu envie fait des prototypes, des dessins, des objets. Moi, j'appelle ça les objets du quotidien. Pour avoir une pièce bien faite qui transpire la belle matière et le travail réalisé. Et en fait, ces pièces-là, elles restaient à l'atelier sans forcément avoir la visibilité, mis à part les gens qui venaient à l'expo pour voir un autre projet que celui-ci. Donc un jour, Sébastien, il m'a parlé de ça. Je connais Sébastien, je connais Rémi. Je dis, là, ils ont quand même un super projet. Ils ont vraiment du toupé à vouloir se lancer là-dedans. C'est aussi une possibilité à moi de montrer ces objets-là à un autre public, tout en ayant un site marchand. Moi, actuellement, effectivement, la question c'était ça. Est-ce que j'ai un site internet? Oui, j'ai un site internet, mais c'est vraiment un site vitrine. À un moment, je me suis posé la question également, est-ce que ce site-là, je le transforme en site marchand? Trop de travail, trop de labeur, pas assez de visibilité par rapport à ça. J'ai été conseillé aussi par Sébastien, puisque c'est lui qui a fait le site de l'atelier et qui m'a parlé de ce projet-là. Donc j'ai trouvé que c'était un super timing.
Et alors pour les artistes artisans là, qui proposent, comment ça se passe? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'ils payent quelque chose? Comment ça fonctionne en fait, Quasart?
On a eu la chance d'être entouré par une dizaine d'artisans, d'artistes sur la phase de réflexion, de création du projet. L'idée, c'était qu'on puisse co-construire cette plateforme en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits, de leurs attentes. On a voulu créer un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si on arrive à générer des ventes pour les artistes, on a une commission sur la vente et qui a été fixée et déterminée avec eux qui est de 15%. 15%, c'est cohérent puisque un artiste qui expose dans une galerie chez un confrère va avoir minimum 25-30% de commission sur ce qu'il va proposer. Donc 15%, ça permet d'être en deçà de ce qui est proposé habituellement. Et puis, l'idée, c'était d'avoir une plateforme 100% gratuite. Quelqu'un qui veut tester la plateforme, s'inscrire sans payer d'abonnement, sans avoir de frais inhérents ou de choses comme ça liées à la plateforme, qui puisse le faire. Et donc, c'est en ce sens-là aussi où on prend le contre-pied des plateformes existantes, puisque comme disait Zoé, quand il y a beaucoup de besoin de visibilité, il faut payer des abonnements mensuels pour être mis sur le devant de la scène sur les plateformes, pour exister parmi le flot de tous ceux qui existent. Et donc nous, au jour d'aujourd'hui, l'idée c'est de donner une visibilité identique à tout le monde. Il n'y a pas d'algorithme qui va privilégier Pierre ou Paul sur les résultats de recherche. Chacun a autant de chances de visibilité que le voisin. La plateforme est gratuite. L'artisan est présenté de façon qualitative, qui il est, son parcours. Comment le contacter? S'il a un site web, on met son site web en avant. Ses réseaux sociaux également. L'idée, c'est de jouer la transparence pour dire ces produits-là, s'ils existent, c'est grâce à Joseph, à Zoé et à tous les autres qui sont là et qui ont des savoir-faire et qui peuvent vous les proposer aujourd'hui.
Et comment tu t'es rapproché des premiers artistes, artisans, etc. qui sont sur ton site internet et sur la plateforme Quasart? Et comment est-ce que les artistes, est-ce que les créateurs semblent intéressés par ta plateforme aujourd'hui?
Donc les tout premiers, Joseph en faisait partie, des bêta-testeurs qui a pu voir les premières interfaces, les premiers outils, les tester, nous faire des retours pour dire l'outil est adapté, il manque ça, il y a ça qui devrait être modifié, etc. Ça a été du bouche à oreille, du réseau par contact interposé où on a pu échanger avec des gens qui étaient à proximité de chez nous. Ensuite, quand on a cherché à élargir un petit peu plus, et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu rencontrer avec beaucoup de plaisir Zoé, c'est en participant à des marchés de créateurs à l'échelle locale sur l'Ardèche, notamment sur un territoire que j'ai adoré qui est Ardèche des Sources et Volcans, qui est très dynamique au niveau des artisans d'art, des créateurs qui organisent beaucoup de choses. Et ça m'a permis de rencontrer rencontré des belles personnes avec qui j'ai pu échanger sur le projet, qui ont joué le jeu, qui ont compris l'idée du projet et qui se sont joints à nous pour participer à cette aventure. Et puis on a eu, donc depuis le mois de décembre où la plateforme est lancée, depuis le 2 décembre, où elle est officiellement lancée avec les ventes en ligne et l'ensemble des fonctionnalités, on a eu la chance de voir des gens du Tarn, du Val-de-Marne, de différents endroits en France qui, par l'effet ricochet des réseaux sociaux ou d'autres plateformes, nous ont découvert, se sont inscrits, ont compris les valeurs du projet et participent également à l'aventure.
Parce que c'est ça, en fait, c'est certes ardéchois, mais c'est ce que tu disais, ça a une vocation nationale, voire peut-être plus plus tard, mais c'est, voilà, c'est ouvert, c'est pas uniquement ardéchois.
Alors l'idée pour nous, ça reste à 100% de défendre le savoir-faire des artisans et artistes professionnels français. Donc les vendeurs, ce sera uniquement des personnes françaises qui ont une entreprise. Par contre, le rayonnement de ces savoir-faire et de ces produits, si un jour on peut le porter au-delà des frontières de la France, ce sera une belle réussite et pour pouvoir rayonner et illuminer le plus possible sur toutes ces créations-là.
Et comment, justement, comment on est visible? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une telle concurrence, justement, sur Internet. Comment rendre visible la plateforme? Enfin, comment vous faites? Oui.
Au jour d'aujourd'hui, alors le projet Quasart, c'est un projet, alors ça peut paraître énorme dit comme ça, mais c'est très petit. C'est un projet aujourd'hui à 300 000 euros. 300 000 euros pour des porteurs de projets petits comme nous, c'est des budgets énormes, hein, puisqu'on s'endette, on prend des crédits, etc. Pour des plateformes type Marketplace ou autre, on a des concurrents qui brassent des centaines de millions ou des milliards. Donc réussir à exister, pourquoi 300 000 euros? C'est que dans ce budget-là, il y a un gros budget publicitaire. On a beau avoir un beau projet, un bon concept, des belles valeurs, si on n'est pas connu, si on n'est pas visible, ça ne fonctionne pas. Donc dès le départ, on a prévu dans notre prévisionnel le fait de pouvoir communiquer par de la vidéo, par de l'image, via différents supports de communication. Et au jour d'aujourd'hui, on est en pleine phase de test où justement on diffuse dans beaucoup d'endroits différents, sur différents types de supports et surtout on quantifie les données et les valeurs qui en retournent. Est-ce que ce public-là, quand il consulte nos publicités, il est partie prenante, il joue le jeu, ça plaît, quel taux de retour on a, est-ce qu'une fois qu'ils sont sur le site, ça transforme, est-ce qu'ils mettent au panier, est-ce qu'ils achètent, etc. Donc c'est tout ce processus-là qui est enrichissant et qui se déroule en ce moment même pour pérenniser la plateforme.
Mais est-ce que justement l'écosystème actuel ne privilégie pas les grosses plateformes par rapport aux petites structures comme la vôtre?
Alors on est clairement en position d'outsider et encore peut-être même que là j'enjolive un peu les choses également. Clairement on sort de nulle part, donc on doit commencer à exister. Ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est quand je vois justement des gens des quatre coins de la France qui commencent à nous découvrir, qui s'inscrivent, qui nous contactent. Ça veut dire qu'il y a un intérêt et qu'on arrive à rayonner au-delà de nos frontières et de notre secteur Ardèche. Mais il reste encore beaucoup à faire, effectivement. C'est clairement le combat de David contre Goliath. Il faut qu'on arrive à s'imposer, à montrer que le petit peut l'emporter et défendre un modèle qui fait sens et réussir à coexister par la suite à côté de toutes ces plateformes-là.
Et est-ce que justement les collectivités publiques qui justement promeuvent le local et une partie de ces valeurs, est-ce qu'elles vous soutiennent?
Eh bien, je ne doute pas qu'elles soient à l'écoute de Fréquence 7, donc qu'elles n'hésitent pas à nous contacter et qu'elles nous apportent...
À nous soutenir réellement, concrètement, c'est ça?
Concrètement, et puis qu'elles n'hésitent pas à nous contacter si elles souhaitent prendre part à l'aventure et nous aider à mener le plus loin possible ce beau projet.
Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite parce que Sébastien, on l'a entendu dans ce que tu as dit et peut-être on aimerait entendre aussi encore Joseph et Zoé parler de ce côté humain. Parce que Zéfix, nous, si on t'a connu, c'est parce que c'est vous, c'est l'agent Zéfix qui a créé notre site internet, le site internet de Fréquence 7, et on a pu se rendre compte du côté vraiment humain, du soutien, de l'accompagnement, des arrangements en fait qui sont faits. L'objectif, c'est pas une prestation en fait. Voilà, c'est pas parce que tu parles de donnant. Mais c'est personnel, ce vocabulaire-là, moi je le passe vraiment quelque chose donnant, c'est pas un peu de plus, non, c'est un vrai partage, c'est une vraie aventure collective, et c'est assez remarquable. Vous, je sais pas, Zoé, Joseph, qui veut prendre la parole là-dessus, sur justement ce côté humain.
Le côté humain, comment dire, je pense qu'on pratique des métiers où on met beaucoup de passion, mais des métiers qui sont concrets, où on transfère de la matière. À la fin de la journée, voilà, que ce soit Zoé ou moi, on a matériaux bruts au début, et à la fin de la journée, on a transformé quelque chose. Le numérique, pour moi, c'est totalement virtuel. Donc du coup, on a besoin d'avoir des rapports, des échanges avec les gens qui vont donner notre image, qui vont nous représenter au travers de cet outil numérique qui est indispensable. Et en fait, l'équipe des FX, eh ben, ouais, voilà, ils sont à l'écoute. ils sont capables de faire des moutons à cinq pattes. On peut leur demander des choses très particulières, et eh ben, on va toujours trouver une solution pour soit rediriger mieux que ce que l'on pensait parce qu'on n'était pas dans la bonne direction. Soit trouver une solution pour répondre à nos besoins.
C'est vraiment du fait main, Zoé.
Oui, c'est vrai qu'ils sont vraiment là. Quand on a besoin d'un conseil, en fait, c'est totalement différent des autres plateformes parce que bah, moi, par exemple, j'ai un problème, par exemple, si je veux que ce soit de la porcelaine ou que, dès qu'il manque un petit quelque chose, j'envoie un message à Sébastien et tout de suite, il est très réactif. Il met la matière dans les références et tout ça. Donc on peut vraiment faire de la dentelle par rapport à chaque artisan et les matières qu'il travaille et les couleurs aussi. Moi j'ai beaucoup de couleurs, donc tu m'as donné la possibilité de mettre des camaïeux de vert, des camaïeux, c'est très à l'écoute en fait, et c'est ça qui est très confortable en tant qu'artisan.
Tu es un artisan d'art, toi aussi, tu fais du cousu humain pour chaque artisan
avec
que tu mets en valeur.
Voilà.
À ce moment-là, c'est plus peut-être le rôle de chef d'orchestre pour faire en sorte que toutes les notes s'accordent bien et qu'on soit là pour que tout se passe bien et que tout le monde soit satisfait du résultat.
On pourrait rester sur cette idée de chef d'orchestre, mais j'ai quand même une question, parce que vous êtes aussi acteur. Pour les photos, comment ça se passe? Parce que c'est des belles photos, et ça, c'est une vraie question. Je me dis, ça nécessite quand même de sacrées compétences, quoi.
C'est un énorme boulot, les photos. Surtout, je sais pas comment toi, tu... C'est que des pièces uniques, en fait. Donc, moi, c'est des tout petits objets, et j'en ai plein, plein, plein. Et à chaque fois, il faut faire une belle photo.
Et c'est toi, c'est vous les artisans qui les faites?
C'est moi qui essaie de m'en sortir, mais pour moi, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, je suis pas forcément... bien là-dedans, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a beaucoup, beaucoup de choses et qu'à chaque fois, il faut prendre la bonne lumière, tout ça. C'est assez complexe.
Donc, les photos, nous, on les traite en interne également, mais il y a le projet de faire intervenir quelqu'un, un professionnel, pour les photos. Après, nous, au niveau des objets, on a fait une gamme spécifique pour QuadzArt, en fait, de manière sur le site, pour montrer, je parlais d'un bougeoir, par exemple, ou d'un soliflore. Eh ben, on le fabrique en petites séries. Quand je disais séries, il y en a 10, hein, mais de manière à ce qu'on le prenne qu'une fois en photo et qu'après, ben, la personne qui le commande son frère jumeau, quoi.
Je rebondis sur ce que dit Joseph, parce qu'il y a une fonctionnalité qui me tenait à cœur, qui est en place sur la plateforme aujourd'hui. C'est le fait, justement, en prenant le contre-pied sur des plateformes comme ça qui sont artisanales, de dire un objet qui vous est proposé aujourd'hui, soit il est en stock en petite quantité ou en pièce unique, soit il est fabricable à la commande. Et réussir aujourd'hui à dire qu'un objet n'est pas dans un entrepôt à 5000 exemplaires et produit en série, mais que c'est un objet qui a une âme, un parcours, une histoire, et peut-être même qui n'existe pas encore et qu'on va le fabriquer quand vous allez le commander, ça c'est une démarche qui pour moi aujourd'hui fait sens en termes d'environnement, de démarche de société, c'est réussir à se réapproprier un modèle économique qui soit plus valeureux et vertueux que ce qu'on trouve malheureusement de façon très générique un peu partout aujourd'hui.
Eh bien, vive QuadzArt. QuadzArt, qui signifie quoi?
Alors, QuadzArt, c'est un terme qui est inspiré du quasar, qui est l'objet en fait le plus brillant qu'on puisse observer en astronomie. Et il se trouve que le QuadzArt ne partait d'autre un jet de matière. Et donc, l'image était trop belle, le jet de matière qui va venir créer quelque chose d'autre par la suite. Le clin d'œil à l'artisanat est juste incroyable.
Merci beaucoup, on a complètement la tête dans les étoiles et la poésie. Merci beaucoup Sébastien Coget, fondateur de l'agence ZFX et de QuadzArt. Merci aussi à Zoé Delisle, bijoutière céramiste qu'on peut retrouver sur la plateforme QuadzArt. Et puis merci aussi Joseph Vallon, ébéniste, idem, de la plateforme QuasArt.
Merci Sophie, merci à Fréquence.
Merci à tous les trois d'être venus ici et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, auditrices, auditeurs, d'écouter Fréquence 7 et de rester à l'écoute, puisqu'à 13h, il y a la rediffusion de Sam Travail qui traite aujourd'hui de l'histoire d'Agnès, en charge du développement du numérique dans une grosse entreprise d'ailleurs. Donc à écouter à 13h. À 15h, c'est le Telex, vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. À 19h, l'écho du parquet. Et à 21h, c'est la rediff d'Hexagone Jazz & B. Martial Solal rend hommage à Duke Ellington en 1997. Et DJ Steph vous resserre le concert. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.